Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
L'agriculture, il faut la repenser, ça c'est évident. Là maintenant, sur cette partie éducation, je comprends ton point. Après, tu es obligé, surtout si tu t'adresses à des jeunes enfants, de quand même simplifier les choses, de simplifier le message. Si je reprends ton exemple, si tu laisses pousser dans un bac tout ce qui vient, ça va être difficile d'illustrer qu'une petite graine donne naissance à un plant de pois chiche qui va lui-même donner des petits pois chiches derrière. Enfin voilà, je pense que la simplification à un moment est quand même nécessaire pour permettre d'illustrer un propos et un processus biologique. Maintenant,
Ça dépend du point de départ. Hein. C'est-à-dire là, toi, ton point de départ, c'est la graine. Ouais. Moi, le point de départ, c'est l'écosystème. Donc, je prends mon écosystème, je zoome sur une graine au hasard, sur un plant au hasard, et après, je fais sa rétrospective, d'où est-ce qu'elle vient.
C'est vachement plus complexe à illustrer. Il va falloir aussi avoir des instituteurs qui soient.
C'est ça, c'est le problème de qui l'enseigne.
Qui soit agronome, quoi.
Ouais.
Donc, oui, t'as raison, fondamentalement, c'est mieux et c'est ce qui se passe dans la vie, quoi, enfin, ou dans la nature. Mais voilà, je trouve que le côté simplificateur n'est quand même pas. Ok. S'il est bien accompagné, bien communiqué, il est quand même pas inintéressant.
Mais c'est vrai qu'on parle de l'école parce que c'est ce qui nous parle le plus en termes d'éducation, mais comment on éduque même la population adulte sans leur demander d'aller forcément faire pousser des pois chiches, mais à ces nouveaux types d'agriculture et de leur faire comprendre que ils ont un intérêt à peut-être consommer ce type de produit ou...
Bah, tu parlais de... Malheureusement, c'est très compliqué. Hein. Tu parlais de marketing aujourd'hui. Je trouve que, bah oui,
c'est un peu l'approche marketing
est quand même la solution la plus facile parce que c'est déjà extrêmement compliqué de faire comprendre ça aux décideurs politiques ou même à des agriculteurs hein, qui ont fait pendant 10, 20, 30, 40 ans du conventionnel, leur expliquer qu'il faut
c'est
aller vers d'autres modèles.
Des raisons économiques ou c'est de manière...
C'est plein de choses, c'est des raisons économiques, c'est une pression sociale du milieu hein, qui vous empêche un peu des fois de faire des pas de côté. C'est effectivement parce qu'on est dans des filières qui sont organisées comme ça, et donc sortir de ces filières, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que c'est compliqué. Mais c'est aussi même tout simplement que l'agroécologie, bah, c'est beaucoup moins simple sur le terrain à appliquer que passer un coup de Roundup ou un coup de charrue, quoi. Enfin, c'est plus complexe. Donc voilà, je trouve que c'est déjà très dur de faire comprendre ça aux gens qui sont les premiers concernés. Donc avoir l'ambition de faire comprendre à la population ce que c'est, ce serait génial hein, et très louable, mais en tout cas nous, c'est pas notre approche. On se dit que c'est un peu trop et qu'on va déjà se concentrer sur l'essentiel qui est déjà de remettre des gens avec l'envie de faire de l'agroécologie dans les champs, quoi.
Et ces personnes-ci, est-ce qu'elles sont confrontées à des défis techniques et pratiques très forts sur lesquels c'est difficile, difficile à surmonter.
Nous, c'est un de nos gros défis, à la fois nos ambitions, mais on ne sait pas comment on va y arriver, c'est faire de l'agriculture biologique de conservation.
Ok.
Je vous disais, un point clé, c'est la conservation des sols, c'est-à-dire faire du non-labour, et de faire en même temps l'agriculture biologique. Pourquoi, je vous disais, en Amérique, ils mettent du Roundup, ils font donc du non-labour, mais ils mettent du Roundup. C'est parce que si on ne laboure pas, on a plein de mauvaises herbes qui poussent dans les champs. Pour les éliminer, il y a le Roundup. Et il n'y a pas forcément... Enfin, il y a d'autres solutions via la diversité, via par exemple l'élevage, mettre des animaux dans les champs qui vont éliminer quelque part ou brouter ces mauvaises herbes. Mais ça, c'est des organisations très complexes. Donc la cible serait à la fois de faire du non-labour et de ne jamais avoir recours soit au labour, soit des herbicides pour détruire ces végétaux qu'on ne veut pas dans nos champs. Maintenant, il y a certains contextes qu'on appelle pédologiques, c'est-à-dire certaines natures de sol, qui rendent ça très compliqué, parce que dès que le sol est mouillé, typiquement, on ne peut pas rentrer un tracteur, donc on ne peut pas éventuellement aller passer un petit coup de labour pour éliminer ces herbes ou faire paître des vaches parce qu'elles vont s'enfoncer dans le sol. Donc voilà, il y a plein de contextes qui font que ça peut être très compliqué d'associer à la fois agriculture biologique et non-labour. Donc on pousse quand même vers ça, parce qu'on apprend aussi au quotidien plein de nouvelles choses, et je pense qu'on va, au fur et à mesure du temps, s'approcher de cette cible. Mais je pense quand même qu'il y aura des contextes dans lesquels ça restera très difficile et qu'il faudra malgré tout, et nous c'est ce qu'on s'autorise du coup, passer un petit coup de charrue dans le champ pour, parce qu'on s'est fait déborder par des mauvaises herbes.
De toute façon, si je comprends bien, c'est pas une transition d'une fois, c'est-à-dire c'est pas on passe de l'agriculture classique à agroécologique, c'est vraiment un travail sur des années, c'est du...
Ouais, et on a le droit à l'erreur. Enfin, voilà. Et il y a des moments où ça se passera pas comme on voulait. Et voilà, bah, il faudra malgré tout rectifier le tir parce que c'est de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est pas on laisse faire la nature. C'est, bah, on essaye quand même de contrôler les choses et d'intervenir pour orienter. Donc, voilà, c'est pas, entre guillemets, parfait.
Est-ce qu'il y a d'autres défis techniques comme ça que vous rencontrez ou alors que vos agriculteurs rencontrent?
Il y en a plein, enfin, et un des gros défis sera de se passer aussi des engrais, enfin, on en parlait, les engrais azotés ou les engrais minéraux. Alors, je sais pas si vous savez, il y a de gros débats sur le phosphore, par exemple.
Ouais.
C'est quoi le débat sur le phosphore?
Alors, le phosphore, donc, c'est un des minéraux essentiels à l'agriculture. La problématique, c'est que il y a que quelques endroits dans le monde où il y a des mines de phosphore avec des quantités de phosphore assez importantes, dont je crois 70% au Maroc, qu'un jour ou l'autre ces mines vont être épuisées, qu'elles alimentent le monde entier en phosphore, et que le jour où on n'aura plus ces mines-là, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, en particulier en Europe, hein, aux États-Unis, on a tendance du coup, parce que ces mines existent, à balancer beaucoup de phosphore dans le sol. Ce phosphore est lessivé, finit dans l'eau et dans la mer. Mais le jour où on n'aura plus tout ça, cette ressource disponible, comment on va faire avec le phosphore? Donc il faut totalement repenser nos manières de faire pour ne pas gaspiller cette ressource en phosphore qui est très limitée. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles les gens réfléchissent, mais par exemple, recycler toute l'urine humaine qui est en fait très concentrée en phosphore, mais qui aujourd'hui part aux égouts. Et donc la rapporter dans les champs pour redonner la fertilité à ces champs. Parce
mais
qu'en
son
fait,
pH
c'est quasiment
pas destructeur.
Un cycle. Bah, après, il faut.
Faut la retravailler.
Voilà, il faut la retravailler. Et puis en plus, dans nos urines, il y a
des bon,
médicaments, des hormones, enfin, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de réflexion. Mais en fait, si on arrivait à refaire une boucle fermée, c'est-à-dire que la plante capte le phosphore, on mange la plante, et puis quand on urine, on récupère cette urine pour restituer le phosphore au sol. Là, déjà, on résoudrait une bonne partie du problème. Donc, mais c'est un défi logistique et
on imagine à quel point c'est colossal.
Il y a des personnes qui travaillent là-dessus ou pour l'instant. Ouais.
Ouais. Bah, il y a une boîte qui est à Bordeaux, comme nous, qui s'appelle Toupie. Alors, leur approche n'était pas forcément le phosphore, mais en tout cas, ils travaillent sur l'urine pour faire de l'urine un biofertilisant à restituer aux cultures. Donc, voilà, il y a plein de boîtes qui commencent à monter.
On imagine que ça peut être facile de lever des fonds là-dessus. Hein.
Ben non, si parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser, qui comprennent tout à fait que voilà, il y a des vrais, il y a des vrais enjeux à ces niveaux-là. Donc
puis t'as pas de problème
ça commence à foisonner là-dessus. Mais voilà, c'est typiquement un des enjeux auxquels l'humanité, parce que là, c'est vraiment le phosphore, c'est un enjeu pour la planète, hein, va devoir faire face. Donc il faut des cerveaux brillants qui s'attaquent à ces problèmes.
Quand je t'entends parler, je me rends compte que c'est un sujet qui est éminemment politique et sociologique. Est-ce qu'aujourd'hui, le politique pousse un peu là-dessus ou assez peu?
Enfin, c'est la politique.
Parce qu'elle est aujourd'hui, elle est quand même
diverse.
Elle est influencée par la politique au sens du gouvernement et des députés de l'Assemblée nationale, etc. Elle est quand même influencée, ce qui est normal, ou normal par des lobbies, donc des groupes de personnes qui s'associent pour défendre un point de vue. Les lobbies de l'agriculture traditionnelle sont quand même très très forts. Est-ce que aujourd'hui c'est pas un énorme défi pour vous?
Si, bien sûr. Et effectivement, l'agriculture est très conservatrice dans ses approches.
Et c'est un marché qui est éminemment monopolistique aussi. Il y a très peu de distributeurs.
Ouais, alors ça, c'est sur Laval.
Ouais.
Effectivement, mais donc c'est tout, en fait, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faudrait modifier avec plein d'intérêts effectivement en place qui n'ont juste pas envie de changer. Pour des mauvaises, mais aussi pour des bonnes raisons. Hein. Si je prends les coopératives agricoles, par exemple. Fondamentalement, une coopérative agricole, elle est juste là pour ce que les agriculteurs qui sont adhérents vivent mieux, donc mieux valoriser leurs produits. Mais ces coopératives ont souvent investi dans de gros outils de production pour lesquels, si on change les modes d'agriculture, potentiellement, ces deux outils sont obsolètes. Je vais prendre un exemple dont vous avez certainement entendu parler sur la betterave en ce moment. On a parlé beaucoup des néonicotinoïdes. Pourquoi est-ce qu'on a des néonicotinoïdes ? C'est parce qu'aujourd'hui, les sucreries se sont concentrées. Enfin, on a des sucreries de plus en plus grosses. Donc, ils demandent sur un point donné de plus en plus de betteraves. Donc, il faut produire beaucoup de betteraves sur un cercle relativement, enfin, un périmètre relativement limité. Donc, il faut absolument maîtriser tous les ravageurs de la betterave. Donc, les néonicotinoïdes étaient là pour ça, pour permettre de concentrer la production sur des zones plus réduites. Si demain on se dit que la solution, c'est de produire moins de betteraves, mais sur plus de surface, c'est-à-dire qu'il faut casser la supply chain actuelle, c'est-à-dire avoir des unités de production plus petites et plus réparties sur le territoire, ce qu'on avait avant, mais c'est des investissements colossaux. Qui va prendre ça en charge? Qui va financer ça? À date, personne. Donc il faut...
Subventionner,
ça veut dire être hyper volontariste, mettre énormément d'argent pour restructurer ça. Mais aujourd'hui, je pense que personne n'a cette envie, cette vision. Enfin, en tout cas, pas au gouvernement. Donc, on est un peu coincé. Est-ce que ce sera quand on sera dans le mur qu'on fera ça ? Est-ce que... Bon, aujourd'hui, franchement, ma vision, c'est qu'on ne va pas vers ça. Je pense qu'on va plutôt se reposer sur typiquement les nouvelles technologies de manipulation des génomes pour trouver, enfin accélérer l'identification de nouvelles variétés ou la création de nouvelles variétés de plantes qui seront plus résistantes à ci, plus résistantes à ça. Je pense qu'il y a ce côté très high-tech aujourd'hui dans l'air et on va plutôt vers ça que vers une reconfiguration des chaînes de valeur.
Et ça fonctionne ça ou pas ?
Ça fonctionne. Après, c'est toujours le même problème. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer le problème de demain, quoi ? On résout une solution court terme.
Le fameux effet rebond.
Ah ouais, et moi, c'est ma grosse crainte, hein, ce type de choses. On se dit, on va effectivement créer de nouvelles variétés résistantes à tout. Le problème, c'est qu'on va peut-être encore réduire la biodiversité des écosystèmes et donc encore plus mettre en péril l'écosystème global de la planète parce qu'il y aura encore moins de diversité dans nos campagnes que ce qu'il y a aujourd'hui. Et pour moi, c'est un vrai gros risque. Donc, je serais extrêmement prudent avec ce type de technologie.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Est-ce qu'il y a des moyens pour surmonter tous ces obstacles, tous ces enjeux qui sont mis en place aujourd'hui ? Ou alors qui devraient être mis en place et qui pourraient l'être ? Par exemple, les subventions, mine de rien, ça va coûter hyper, hyper cher pour un gain qui est certes national, mais... Qui sera perçu par très peu d'acteurs directement, donc difficile à justifier. Et dans un contexte de on veut réduire la dette, c'est peut-être pas le plus pertinent.
Moi, je pense qu'il y a une approche qui serait très vertueuse, mais qui est assez dure, c'est la fameuse taxe carbone. Ouais. Ben, si on faisait payer au juste prix toutes les industries, toutes les filières.
Les externalités négatives qu'elles génèrent.
Exactement. Alors, c'est sûr, l'impact direct, ce serait un renchérissement de toutes les productions agricoles. Si on parle vraiment de l'agricole, c'est sûr que l'alimentation va d'un coup augmenter. On voit déjà l'inflation qu'on a eue là, ces derniers mois, dernières années, l'impact que ça a eu sur les populations. Mais je veux dire, pour moi, c'est le seul moyen de pousser un changement structurel de l'ensemble de cette industrie-là. Parce que si l'alimentation est plus chère... Qu'est-ce qui va coûter beaucoup plus cher ? C'est plutôt l'agriculture conventionnelle, parce que c'est elle qui a beaucoup d'externalités négatives. Et donc, le bio ou l'agroécologique va comparativement être beaucoup plus abordable. Et donc, les gens, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, vont naturellement plutôt aller vers ces produits. Parce qu'après équivalent, autant prendre le produit le plus sain et le plus vertueux. Hein. Mais voilà, ça pose plein d'autres problèmes sociaux que le gouvernement doit être prêt à attaquer. Et en particulier, selon moi, en subventionnant pour les plus pauvres l'alimentation. Parce qu'effectivement, c'est un besoin essentiel. Ce que n'est pas forcément un iPhone, le dernier iPhone ou je ne sais quoi.
Par rapport aux obstacles, on a parlé pas mal justement de tout ce qui était les politiques.
Ouais.
Sur le long terme, est-ce que ça coûte vraiment plus cher à implémenter ce genre de...
Ah, tu veux dire, est-ce que l'agroécologie structurellement est plus chère?
Ouais.
Aujourd'hui, oui, parce que l'agriculture est en fait ultra subventionnée via la subvention aux énergies fossiles. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais aujourd'hui, on considère qu'on apporte plus d'énergie via les ressources fossiles à l'agriculture, qu'on retire de calories alimentaires de l'agriculture. Et je crois que le chiffre, je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros, on introduit 2 calories d'énergie fossile pour en retirer 1 d'alimentation. C'est totalement aberrant, mais ça explique aussi pourquoi l'alimentation est très peu chère, en tout cas beaucoup moins chère qu'une alimentation agroécologique. Donc oui, aujourd'hui, structurellement, l'agroécologie, c'est plus cher que du conventionnel. Mais encore une fois, si on l'évalue à son juste coût, l'agriculture conventionnelle est beaucoup plus chère parce qu'elle a beaucoup plus d'impact négatif. Donc moi, je suis convaincu que demain, de toute façon, l'agroécologie sera moins onéreuse, en tout cas pas plus que du conventionnel, plus compliqué à mettre en œuvre. Après, il y a certains contextes où ce ne sera pas forcément le cas. Les endroits où les terres sont ultra productives, de très bonne qualité, faciles à exploiter, on restera sans doute avec une agriculture relativement intensive, avec moins d'intrants, ça j'en suis persuadé, on mettra de toute façon moins d'azote, moins d'herbicides, moins de pesticides, mais on restera quand même, on ne sera pas en bio, et on restera quand même dans une agriculture relativement intensive. Mais l'écart de prix et de coût va fortement diminuer, ça j'en suis convaincu.
Et du fait qu'il y a quand même plus de travail et d'investissement humain, ce que tu me disais, à mettre ce genre de pratique en place, est-ce que tu penses que ça peut inciter une forme de création d'emplois plus durable sur ce type de métier?
Nous, on pense que effectivement.
Parce qu'on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre.
C'est obligatoire.
Ou de nouveaux types de main-d'œuvre.
Maintenant, c'est un vrai enjeu. C'est est-ce qu'on va réussir à ramener suffisamment de gens sur ces métiers-là, qui sont des métiers quand même difficiles. Alors, c'est génial, c'est dans la nature, mais c'est pas des métiers simples. Donc voilà, est-ce qu'on y arrivera? Puis en particulier sur des parties qui peuvent être très compliquées. Enfin, le but, c'est pas non plus de revenir au binage à la main des parcelles, quoi. C'est de créer de l'emploi, mais l'emploi quand même de qualité. Donc c'est un enjeu. Mais oui, moi, je suis persuadé. Je crois qu'il y avait un rapport du Shift Project qui disait que il faudrait repasser de, il faudrait augmenter en gros la main-d'œuvre de 500 000 personnes en France, en passant à des pratiques plus agroécologiques et plus vertueuses. Donc 500 000 emplois, c'est pas rien, quoi. Enfin, on double le nombre d'actifs en gros agricoles.
On parle pas mal de bio là depuis tout à l'heure. Est-ce que le bio c'est vraiment un bon indicateur? Et est-ce qu'on peut s'y fier ou pas?
Parce que tu parles du dernier reportage de Élise Lucet.
Entre autres, c'est que mais ça fait quelque temps où on voit que le bio c'est un label qu'on peut avoir en jouant un peu avec les chiffres et avec ce qu'on fait et que finalement c'est peut-être pas si
C'est comme tout en fait. Il y a un outil et la façon dont tu l'utilises fait que c'est vertueux ou pas vertueux. Le bio, il y a quand même un label. Quoi qu'il arrive, ne pas utiliser de pesticides, c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il y a certains contextes ou certains modes de production qui font que le bio peut ne pas être vertueux. Je prends l'exemple du cuivre. C'est un élément qui est vachement utilisé en agriculture biologique. Mais quand on utilise du cuivre en très haute dose, on se retrouve avec des sols qui sont saturés en cuivre et c'est très néfaste pour la vie du sol. Donc, c'est comme tout. Le bio en tant que tel peut ne pas être la panacée. C'est pour ça que nous, le bio, on le considère comme un des outils, un des piliers. Mais il n'est pas unique. Enfin, faut faire du bio et de l'agroécologie. C'est comme ça que ce sera vertueux. Et en particulier, Je reviens à la diversité et à la diversification. Si on a des productions très diversifiées, on ne va pas utiliser toujours, je prends le cuivre, toujours du cuivre au même endroit, tous les ans, année après année, qui vont saturer les sols et pourrir les sols. Si on a une grosse diversité sur l'exploitation, on va changer ses techniques sur chaque parcelle d'année en année. Et du coup, voilà, on va limiter les risques que nos productions soient néfastes à l'environnement. Donc, le bio est plutôt favorable. Nous, on le met en obligatoire parce que c'est un moyen aussi d'inciter à aller beaucoup plus loin dans les pratiques. Mais je suis persuadé que ce ne sera pas du bio à 100% dans l'avenir. Je pense que si l'agriculture conventionnelle réussit à se transformer, être beaucoup moins intensive en termes d'intrants, et utiliser 2, 3, 4, 5 fois moins d'engrais, de pesticides et autres, on aura déjà fait un très gros progrès.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.